29 mai 2010, l'Alcazar, bibliothèque de Marseille à vocation régionale, accueillait la première édition des Conversations de Salerne, rencontre euro-méditerranéenne à l'initiative de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. L'humain à part entière, humanisation et médicalisation en Méditerranée, tel était le thème de cette rencontre qui réunissait chercheurs, artistes et membres du corps médical. Karine Delanoë-Vieux, chef de projet pour cette manifestation, nous en précise les enjeux, suivi par le professeur Pierre Fuentès, président du Conseil scientifique et culturel, qui en évoque les partenaires et nous en donne le programme.
Alors, il s'agit d'une manifestation publique, donc ouverte à tous, qui vise à proposer et construire un espace de débat sur la dimension culturelle et humaine de la relation de soins, de la médecine et de la mission hospitalière.
Quel était le thème, le fil rouge de cette première conversation de Salerne ici à Marseille, à l'Alcazar ?
Alors, on a choisi un thème très fédérateur et très large pour démarrer les conversations de Salerne, qui concerne justement la capacité des systèmes médicaux et de l'hôpital à prendre en compte l'intégrité et la complexité des êtres humains quand ils sont malades et qui sont pris en charge par ces administrations et ces organisations-là.
L'art à l'hôpital, un des éléments essentiels de ces réflexions.
Mais il nous semble que la montée en charge depuis une dizaine d'années de la place de la culture et de l'art à l'hôpital pourrait être une forme renouvelée et contemporaine de ce qu'on a appelé l'humanisation de l'hôpital.
Je m'appelle Pierre Fuentès. Je suis professeur de chirurgie thoracique à l'assistance publique et à l'Université de la Méditerranée. Mais c'est aujourd'hui en tant que président du Conseil scientifique et culturel que je m'adresse à vous. Vous savez que cette journée est placée sous le haut patronage de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Alors ce projet culturel extrêmement innovant qui est porté par l'assistance publique se fait en partenariat avec l'Université de la Méditerranée, avec Marseille-Provence 2013, et avec 7 autres centres hospitalo-universitaires du pourtour méditerranéen, donc l'hôpital universitaire d'Alexandrie, le CHU de Bab el-Oued à Alger, l'hôpital du Val-d'Hébron à Barcelone, l'hôtel Dieu de France à Beyrouth, l'hôpital universitaire de Gênes, le centre hospitalier Ibn Sina à Rabat, et le CHU Charles-Nicolle à Tunis. Très brièvement, je vous rappelle le contenu de cette journée. Donc, nous allons ce matin écouter un certain nombre d'orateurs sur le sujet de la médicalisation et de l'humanisation dans l'histoire de la médecine à l'hôpital. Et nous nous retrouverons à 14h30 pour un partage un peu d'expérience quant à l'élargissement thérapeutique et l'intervention artistique. Je passe donc la parole maintenant au modérateur qui est le professeur Antonio Guerci. Antonio Guerci est docteur en sciences biologiques et professeur des universités à Gênes. Il est vice-directeur du département des sciences anthropologiques de l'université de Gênes et il est responsable de cours auprès de la faculté de lettres et de philosophie et directeur du master en ethnomédecine et ethnopsychiatrie de l'université de Gênes.
Médecine moderne ou technologique et humanisme. S'agit-il d'un oxymore, c'est-à-dire de termes contradictoires? Eh bien, je pense que institutionnellement, oui, mais éthiquement, non. Ne doit pas être un oxymore. Je suis convaincu que le véritable humanisme ne consiste pas dans une vaine résurgence d'un passé littéraire, trépassé, qui n'aurait pour but que de fleurir les esprits. Qui dit humanisme dit utilité pour l'homme, des traditions millénaires qui se superposent et je crois qui sert pour le présent et pour l'avenir. Dans le monde, bien sûr, nous le savons, il y a différents peuples, différentes cultures, différentes représentations du monde, différentes représentations du corps et différentes représentations des santé et des maladies. Je me suis toujours posé la question, et j'espère que ces conversations de Salerne vont aider à résoudre un peu ce problème, je me suis toujours posé la question, pourquoi le mot maladie ou pathologie a un singulier et un pluriel, mais le mot santé existe seulement au singulier. Chaque culture a sa représentation de la santé. Et je crois que ce matin, on va discuter aussi sur ce sujet. Les éclairages apportés par les sciences humaines en matière de santé nous confirment que les cultures ont une fonction pathoplastique, c'est-à-dire de mise en forme de la maladie, comme de vêtements prêts pour être mis. Je passe immédiatement la parole à, pour cette introduction relative à humanité et culture, à M. Pierre Lecause, vice-président du comité consultatif national éthique, professeur agrégé en philosophie à la faculté de médecine de Marseille. Humanité et culture, M. Lecause.
On peut dégager trois grands sens du mot culture. Il y a un sens général, conceptuel, qui est la culture, c'est ce qui s'oppose à la nature. Il existe aussi un sens anthropologique, ethnologique, et la culture, ce sont les pratiques culturelles, ce sont les croyances, les coutumes, et ce sens peut cohabiter avec le troisième sens, celui des humanités, de la littérature, de la philosophie, des arts, mais parfois aussi percuter ce sens. Et nous le voyons parfois au sein des murs d'un établissement de santé, la pratique culturelle, les valeurs de certains patients vont heurter la culture du soin, les valeurs universelles qui sont portées par les acteurs de santé. Donc il existe une tension possible toujours entre les cultures et la culture. Alors, la culture, je le disais, s'oppose à ce qui est naturel. La nature, c'est ce qui est inné, c'est-à-dire né avec moi. Elle s'exprime en l'homme par le patrimoine génétique, par les composantes physiques et biologiques de notre être, auxquelles on ajoute généralement les instincts, les pulsions, les besoins. Tout le reste, tout ce qui n'est pas inné, relève de l'acquis, et l'acquis est regroupé sous le terme de culture. La culture, c'est ce qui nous permet de devenir autre chose que ce que nous sommes à l'état de nature. Nous ne nous humanisons pas seuls, c'est l'humanité des autres qui nous humanise. L'homme est une aventure inachevée, et il doit devenir autre chose, et ce processus de devenir est sans fin. Nous n'en finissons jamais de cultiver notre jardin, comme disait Voltaire. Être humain, c'est participer à l'aventure culturelle de l'humanité. Et parfois, du fait de cette conception humaniste de l'homme, nous pouvons éprouver un certain malaise au sein d'un hôpital. Nous sommes troublés, il se pose un problème d'éthique par rapport à ce qui nous apparaît comme une déshumanisation par la technique, un humain déshumanisé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que seul l'humain peut être inhumain ? L'animal ne peut pas être inanimal, mais nous, humains, nous sommes l'animal le plus inquiétant, le plus intrigant, le plus cruel, et en même temps le plus fascinant, le plus intéressant. Être humaniste, c'est aussi avoir cette curiosité pour l'animal humain, ses pratiques, ses bizarreries, ses faiblesses, ses contradictions. L'humanisme n'est pas l'amour de l'homme idéal, parfait, c'est l'amour de l'humain avec ses contradictions, avec ses faiblesses, mais aussi sa grandeur. Alors, dans quelle mesure peut-on dire que l'hôpital participe à la culture ? L'humanisme, c'est le pari de la grandeur au cœur de la misère humaine. La maladie génétique, le handicap, les défaillances de l'organisme, L'hôpital y répond en misant sur des forces intérieures derrière cette fragilité, cette faiblesse du corps. La nature dit « c'est au plus fort de dominer, c'est la loi du plus fort ». Mais la culture oppose aux règles du jeu de la nature, à la loterie génétique, la cruauté impitoyable des lois de la nature, elle oppose l'égalité entre celui qui est malade et celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas la défense des faibles contre les forts, c'est l'idée qu'il y a des forces derrière la faiblesse physique. Et la culture au sein d'un hôpital va consister, au moins dans l'idéal, à aller chercher des forces derrière cette faiblesse. Je pense aussi qu'on peut imaginer la culture au sein d'un hôpital par un autre biais, qui est la manière dont se parlent les soignants eux-mêmes, la manière aussi dont ils parlent aux patients. Et je terminerai en même temps, à propos de ce mot humanité, ne pas oublier la dimension compassionnelle de l'humanité. Parce que quand on parle d'une attitude d'humanité, on ne parle pas seulement de la culture, de l'instruction, de l'éducation, mais on parle aussi de la compassion. L'hôpital est au cœur de la cité comme un espace d'hospitalité, un lieu d'expression de la souffrance et faire preuve d'humanité, c'est donc appartenir à l'espèce humaine, c'est se cultiver, mais c'est aussi participer affectivement à la tristesse des autres.
Monsieur Rafik Khalil, professeur de chirurgie, ancien chef de service du département chirurgie générale et digestive de Alexandrie, il va nous présenter une histoire sur les hôpitaux en partant de temples grecs et égyptiens jusque presque, je crois, à l'actualité. Je vous donne la parole, merci.
Les modèles anciens des hôpitaux étaient les lieux destinés pour les malades dans les temples égyptiens et grecs. L'Égypte ancienne, beaucoup de temples auraient des sanatoriums, des installations vouées aux soins des personnes malades. Exemple, le temple de Dendre et de Rebahari. Et c'est le symbole de Peranch, la maison de la vie. Les maisons de la vie refermaient un département médical où le jeune médecin pouvait apprendre plus auprès des malades. Aussi, une pharmacie était trouvée où l'on préparait les médicaments. La Grèce ancienne, la culte d'Asclepios, dieu de guérison, commençant environ 500 ans avant Jésus-Christ. Le temple d'Asclepios était voué à la guérison. Les patients dormaient la nuit dans l'Asclépion. Et le jour suivant, ils racontaient leurs rêves à un prêtre qui leur prescrivait le remède. La civilisation islamique, le Pimaristan. Ce mot Pimaristan a été utilisé par un hôpital au sens moderne du terme. Un établissement où les malades et blessés étaient accueillis et pris en charge par un personnel qualifié. Les Pimaristans sont considérés aussi les premiers hôpitaux publics et les premiers hôpitaux universitaires. Le premier Pimaristan a été fondé en 707 par le calife Omayyad al-Walid ibn Abd al-Malik à Damas. Tous les soins étaient gratuits. Et par la suite, 34 hôpitaux publics se sont développés à travers tout l'Empire musulman de l'Espagne et du Maroc. et de Tunisie aussi, Pema restant de Kairouan à Tunisie. Elle disposait des quartiers distincts pour les différentes maladies et comprenait les laboratoires, des laboratoires, des cuisines, des pains, une mosquée, une bibliothèque aussi, et des salles de conférences et des salles de musique pour récréation des malades. L'école médicale de Salerne, elle prit racine dans les premiers fondements bénédictins vers la fin du 7e siècle. L'école médicale de Salerne a obtenu les faveurs de Robert Guiscard et des successeurs normands. Elle fut la première à porter un titre académique reconnu dans toutes les principautés d'Europe. Les hôpitaux qui se sont ouverts plus tard en Europe, au moment des croisades, ont été inspirés par les Pimaristans. Le premier hôpital de Paris, le 15-20, a été fondé par Louis IX, Saint-Louis, après son retour de la 7e croisade en 1260. Hôpital de Charité, à côté des églises, les Hôtels-Dieu. L'Hôtel-Dieu de Paris a été établi en 1505 par 8 bourgeois parisiens pour loger et nourrir les pauvres, les invalides, et leur fournir la piété de la religion chrétienne. En 1660, a été création par décret d'un hôpital général dans chaque grande ville française. Les hôpitaux séculaires. Le premier hôpital séculaire de l'Europe a été établi par Thomas Guy en 1721. Puis après, de nombreux hôpitaux séculaires se sont construits dans les villes d'Europe, Heidelberg, Berlin, Bordeaux, etc. L'hôpital moderne, le progrès considérable de la médecine affecté par les recherches de Pasteur et Lister, l'adoption d'antisepsis, et puis après le développement d'incisie et des autres branches de médecine, offrira de nombreux horizons pour améliorer les hôpitaux.
Maintenant, écoutez, Madame Isabelle von Bölzingslöwen, qui est maître de conférence en histoire contemporaine auprès de l'Université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire de recherche d'histoire Rhône-Alpes, qui va nous parler justement corps et âme, les courants holistiques dans la médecine française 1930-1960. Merci.
Alors, j'aimerais commencer mon intervention en évoquant l'histoire du moment holiste en médecine. Bien que plus marginal qu'en Allemagne ou aux États-Unis, ce moment holiste a marqué la médecine française des années 1930 aux années 1960. Alors, en quoi consiste ce holisme médical qui s'affirme en France dans la seconde décennie de l'entre-deux-guerres ? Se reconnaissent plus ou moins explicitement dans le holisme médical des médecins qui puisent dans des traditions et dans des pratiques très diverses. Premier point à souligner, le holisme médical repose sur une critique plus ou moins appuyée des évolutions de la médecine qui se sont imposées, peut-être moins complètement qu'on ne l'a dit, depuis les travaux de Claude Bernard, qui ne s'appuie plus sur l'observation clinique, mais sur l'expérimentation dans le cadre du laboratoire, et le développement de la bactériologie dans le sillage des découvertes de Louis Pasteur. Les médecins holistes s'en prennent en particulier à deux tendances qu'ils jugent particulièrement dommageables. D'abord, le spécialisme, et puis le réductionnisme, qui consiste à rapporter la maladie à une seule cause, une bactérie par exemple. Cette approche globale, qui prend également en compte l'environnement naturel et social du patient, repose aussi sur l'idée qu'à condition d'être stimulé, le corps est capable de se défendre tout seul contre l'agression que représente la maladie. Le holisme médical est en effet le produit d'un contexte très spécifique, marqué par ce que les historiens appellent communément la crise des années 30. Une crise multiforme, à la fois économique, politique, sociale et culturelle, qui conduit les élites, médicales mais pas seulement, à incriminer la modernité sous toutes ses formes, l'industrialisation, l'exode rural, l'urbanisation, le développement de la culture de masse, la transformation des modes de vie, comme responsable du déclin de la France. C'est dans ce contexte que les historiens qualifient aussi de pessimisme culturel que s'inscrit la tentation médicale d'un retour à la tradition, ou en tout cas d'une synthèse entre tradition et progrès. Mais pour comprendre le holisme médical tel qu'il se développe en France, il convient d'insister sur un autre élément de contexte qui est d'ordre religieux. Après la condamnation de l'action française par le pape en 1926, les catholiques français désertent le terrain politique, la lutte contre la République n'est plus un enjeu, et s'engagent sur le terrain social par le biais de ce que l'on a appelé l'action catholique, l'enjeu étant de réconcilier l'Église avec la modernité et de lutter contre la déchristianisation qui touche tout particulièrement certaines régions et certains milieux, en premier lieu le milieu ouvrier. Cette vitalité du catholicisme, fondée sur l'idée qu'il est possible de reconquérir les masses à la foi chrétienne, se traduit aussi dans le corps médical, dont certains membres mettent en avant leur identité chrétienne et tentent de définir les contours d'une médecine catholique, ou en tout cas d'une pratique catholique de la médecine. Or, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les catholiques, très présents sur le terrain médical, sont très bien représentés dans le holisme médical. Alors, ce groupe de médecins catholiques a donné une inflexion particulière à la médecine holiste que l'on ne retrouve pas dans les pays à dominante protestante ou moins marquée. Si bien que l'on parle souvent de médecine humaniste pour désigner le courant holiste en France. Les médecins catholiques mettent en effet l'accent sur la déshumanisation qui menace la médecine, une médecine matérialiste qui, cédant au vertige de la technique, ne place plus l'homme dans son intégrité corporelle mais aussi spirituelle au centre de ses préoccupations. La médecine humaine, qu'ils appellent de leurs vœux, est au contraire une médecine au service de la personne, pour reprendre le titre d'un article de René Biot, c'est-à-dire respectueuse de ses besoins et de sa dignité, une médecine qui ne doit pas seulement viser la santé en soi, mais contribuer à l'épanouissement de l'homme et à l'accomplissement de sa destinée, quelle qu'elle soit. En conclusion, les médecins holistes, qui à partir des années 50-60 seront nombreux à s'investir dans le courant de la médecine dite psychosomatique, et parmi eux les médecins catholiques, ont donc, dès les années 1930, posé les fondements de la bioéthique et d'une démocratie sanitaire qui ne dit pas encore son nom, mais met l'accent sur les droits et la dignité des malades.
Mais maintenant, nous allons fixer notre attention sur un particulier milieu géographico-culturel, c'est-à-dire la Tunisie. C'est pour ça que je donne la parole à M. Hamza Essadam, chef de service d'orthopédie de l'hôpital de Rabta, Tunis, qui va nous parler de l'homme et l'hygiène dans les hôpitaux en Tunisie.
L'hôpital est le miroir de la relation médecin-malade. Les hôpitaux en Tunisie datent du 9e siècle. Ils sont gratuits. Et même au 9e siècle, les malades en quittant l'hôpital percevaient 5 pièces d'or, et André Naoum la qualifie de véritable fortune, une déculpabilisation de la société vis-à-vis du citoyen pour n'avoir pas su préserver sa santé. En Chine, les médecins étaient payés tant que les gens étaient en bonne santé. Quand ils tombaient malades, c'est au médecin de payer. et y disposaient d'une organisation administrative. Au IXe siècle, ils sont gérés par un haut fonctionnaire payé par l'État. Son équité doit être notoire, son honnêteté à l'abri de toute suspicion. Au XVIIe siècle, leur statut est consigné devant notaire. Et au XIXe siècle, leur statut est rapporté au journal officiel de l'État tunisien. Dans ce dernier statut, les droits et devoirs des malades, l'organisation de l'hygiène et des vaccinations sont codifiés. Les lits sont individuels. Il existe un secteur réservé aux femmes, une pharmacie et une salle de soins. C'est un espace laïque. Cette laïcité est précisée dans le statut du XVIIe siècle. Il n'y a pas de différence entre les malades ou les blessés, qu'ils soient arabes, turcs ou autres. C'est un espace mixte où des femmes médecins exercent. Cette continuité de la pratique d'une médecine de qualité pendant plus de 20 siècles ne peut s'expliquer que par une approche de l'homme et de la maladie et de l'homme malade, indépendante du temps, des civilisations et des espaces de soins. Cette approche est contenue dans le mot « liberté ». Chaque homme est une mosaïque unique et nous devons respecter ses singularités qui sont les paramètres de sa liberté. Aussi, l'hôpital, par ses choix, assure cette liberté. Il lui permet de garder sa place, il ne l'exclut pas. La culture de cette liberté en Tunisie a 20 siècles. Elle va s'exprimer de différentes manières et nous contenterons de rapporter quelques exemples parmi ceux exposés à Kairouan en 2009. Cette expression, nous la trouvons dans ce vers du carthaginois Terence, deux siècles avant Jésus-Christ, « Je suis un homme et j'estime que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Ou dans ce discours tenu par Apulée, deux siècles après Jésus-Christ, qui devance de 16 siècles l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Cette liberté passait par la gratuité des soins. À Carthage, les médecins étaient payés par l'État. Elle s'exprimait dans ce rapport médecin-malade. Le médecin s'assied auprès du malade. Cette liberté passe aussi par une approche scientifique de la médecine. Enfin, cette liberté de l'homme ne peut être dissociée de la liberté de la nature et on parlait à cette époque d'avocat de la nature. Aussi, la médecine était pratiquée comme un art à Carthage et on s'étonne que les traités d'histoire de la médecine dans l'Antiquité n'en parlent pas. Au IXe siècle, l'arrivée d'une nouvelle civilisation se fera sans heurts, car elle partage le même principe de liberté, comme cet exemple de contrat de mariage au premier siècle de l'islam, où la femme était libre de décider de son mariage. Cette civilisation partage la libre communication des pensées, des opinions, et les écrits de Kairouan, emportés en Italie par un Tunisien, Constantin l'Africain, et traduit en latin, participeront à la fondation de l'école médicale de Salerne, dont le souvenir nous réunit aujourd'hui. De Kairouan et de Salerne, les écrits médicaux de Kairouan diffuseront dans le monde entier. Et il n'est pas étonnant que la Tunisie soit parmi les premiers pays à abolir l'esclavage. Au XXe siècle, ce concept de liberté prendra la forme de ce guide du médecin français en Tunisie, écrit en trois langues, en arabe, en français et en franco-arabe, afin de veiller à la liberté de communication entre médecins et malades ne parlant pas la même langue. La présence de femmes dans le secteur du savoir médical, aujourd'hui, perpétue une tradition deux fois millénaire. Nous avons vu l'importance de ce facteur liberté comme lien entre médecine et humanité. Nous avons aussi vu que l'homme ne peut être séparé de la nature et que grâce à cette liberté, le malade reste homme. Aussi, aux questions posées par cette première réunion de Salerne sur comment rapprocher humanisation et médicalisation, je ne pense pas comme Isabelle Baudron accusait Aristote ou Descartes d'avoir, tous les deux, déshumanisé l'homme. Je propose pour ma part une lecture différente de ces deux penseurs et de reconsidérer notre mode de formation des médecins à la lumière de leurs réflexions, mais aussi à partir de la réflexion d'autres auteurs et d'autres civilisations. Les critères de sélection aux études médicales ne doivent plus être basés sur les mathématiques, car la médecine est un art et non une science exacte. Cette rigueur mathématique a engendré le formatage binaire de la pensée, bien mal, vrai faux. Ce changement doit passer par un changement de la pédagogie. Par contre, la rigueur doit être dans le choix des mots, ce bel outil de communication. Merci de votre attention.
Démarrer maintenant une histoire de l'humanisation dans les hôpitaux français. Bernard Bellègue est directeur de la recherche de l'innovation de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. À vous la parole.
Il faut peut-être revenir à ce que c'est que à une définition de l'humanisation. Les dictionnaires disent que l'humanisation, c'est le fait de rendre supportable à l'homme. Humaniser l'hôpital, on pourrait donc dire que c'est rendre supportable d'une part l'hôpital, mais aussi la maladie, le handicap, la vieillesse et la mort. On voit bien donc que l'humanisation a un double but, de toucher le lieu et l'objet. Le lieu, les locaux, les équipements de soins, mais l'objet, c'est aussi la maladie et bien entendu les moyens de la traiter, la médecine. Ceci dit, donc on peut considérer que le devoir d'humanisation des hôpitaux est un devoir de la société et qu'il recoupe là aussi deux réalités. Il faut humaniser les pratiques, c'est-à-dire les comportements humains, et il faut humaniser aussi les lieux de soins. La première étape, la plus importante peut-être, a été celle de la charité, chrétienne, mais probablement aussi d'autres religions. Une autre évolution dans les idées qui a permis d'aboutir à une amélioration de la prise en charge des malades, c'est le devoir d'assistance qui est né au XIXe siècle. Un devoir d'assistance qui revient à l'État. L'État, ce devoir envers sa population. Alors, l'humanisation est un mot nouveau. C'est un mot qui vient de l'humanité. C'est un mot qui est apparu dans les années 1950 dans la bouche des directeurs d'hôpitaux ou des hospitaliers, si on veut le dire d'une manière plus générale, lorsqu'ils ont vu que les demandes pressantes qu'ils faisaient pour humaniser leurs établissements n'avaient pas d'écho auprès des politiques. Et donc ce terme d'humanisation est devenu un slogan pour les hospitaliers qui l'ont utilisé très souvent en disant « il faut humaniser l'hôpital ». Et la première étape, c'est la loi d'avril 1928. Elle a marqué le tournant dans le fonctionnement des hôpitaux avec l'accès des classes moyennes à l'hôpital. Jusque-là, les hôpitaux donnaient des soins gratuits. C'était l'accueil des indigents, l'accueil des nécessiteux. Et les classes moyennes, qui n'avaient pas assez de moyens pour aller dans les cliniques, rechignaient malgré tout pour aller dans ces salles communes. Le décret de 45 est important puisqu'il a créé le service public hospitalier. La circulaire du 5 décembre 58 est une circulaire qui, pour la première fois, a employé le mot d'humanisation. C'est la circulaire du 5 décembre portant humanisation des hôpitaux. Pourquoi il y a un désir de changement, une politique de l'humanisation? Le premier facteur, c'est le rejet probablement de la promiscuité. Le deuxième facteur de changement, après la prise en compte de cette promiscuité inacceptable, c'est que le progrès médical a augmenté, a progressé, et qu'il fallait créer des locaux qui permettaient à ce progrès médical de s'exercer. Et que les plateaux techniques sont apparus peu à peu, et qu'il a donc fallu rajouter cette nécessité à l'obligation d'humanisation des hôpitaux. Alors, si on abandonne les salles communes, c'est pour avoir des chambres. Une autre conséquence de la politique d'humanisation en matière architecturale, c'était l'éloignement des hôpitaux du centre-ville. Transformer les salles communes en chambres individuelles, créer des locaux techniques, des plateaux techniques, imposer plus de surface, plus de lits, ça n'était pas possible dans les enceintes existant dans les hôpitaux. Le deuxième levier après l'architecture, c'est le personnel. Donc, les soins infirmiers sont en progrès. On va vers la laïcisation et la spécialisation du personnel infirmier. Ça fait partie aussi de l'humanisation. Si on fait un constat sur l'humanisation aujourd'hui, on peut dire que l'hôpital ne sera jamais un cadre naturel. Deuxième bilan, l'organisation et la science donc, éloignent de l'homme. Le patient est un peu mis à l'écart dans cette technique ultra sophistiquée. Pour conclure, je dirais que l'humanisation, quel que soit le vocable qu'on retient, sera éternel, sera un besoin éternel. Il faut des personnels ultra spécialisés, tout cela est absolument l'essentiel, mais il faut parfois un petit peu plus pour donner sa pleine valeur à ses efforts matériels, et ce petit plus, ça peut être le regard ou la parole d'un soignant, ça peut être aussi une main apaisante sur une main douloureuse d'un patient.
personnel infirmier entremite en réalité les infirmières qui soignent l'âme, qui soignent le corps, qui sont à côté du malade, lui parlent, lui tiennent la main. Madame Frédérique Tomasini, directeur de soins.
Il y a 3 instituts de formation au centre à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, Nord, Centre, Sud, et je dirige l'Institut des hôpitaux Sud. Je vais donc vous parler de l'évolution de ces concepts d'humanisme à travers les programmes de formation des infirmiers. L'histoire des professions de santé retient souvent l'infirmière, parce qu'elle correspond à cette image de compassion et d'accompagnement véhiculée dans l'inconscient collectif. Depuis toujours, on a attendu des infirmières qu'elles prennent soin des personnes avec bonté, avec humanité. À l'origine, chacun s'accordait à considérer l'infirmière comme naturellement dévouée, pourvue de qualités, d'attitudes, de sentiments qui ne demandent pas de compétences particulières. Par conséquent, pas besoin de formation. Elles ont un don inné. Aussi, la première actualisation du programme en 1961 se calque sur la discipline médicale. L'essor des connaissances médicales requiert des auxiliaires de plus en plus compétentes et c'est cet aspect de la formation qui est développé, centré sur la maladie et les pathologies. Seules quelques heures sont consacrées dans ce programme aux aspects psychologiques de la maladie, les notions d'aide ou de respect à la personne. Le début des années 70 est marqué par le regroupement des professionnels en associations. Elles réclament une réforme des études. Leurs revendications aboutissent et de nouveaux programmes se succèdent rapidement, 72, 73 pour les infirmiers de secteur psychiatrique, puis en 1979. C'est un complet renversement. L'orientation de la formation est claire, le programme d'études est centré sur la personne humaine. Il s'agit avant tout de soigner des personnes et non des maladies. Le savoir médical traite de la maladie de l'homme, le savoir infirmier traite de l'homme dans la maladie. Ces modèles et théories conduisent à considérer les soins infirmiers comme une science humaniste. L'homme est un tout unifié. L'humanité de l'homme ne peut être réduite à des systèmes, des organes ou des cellules. On parle alors de vision globale, de démarche relationnelle, de relations soignant-soignées et de soins personnalisés, individualisés. C'est en 1992 qu'une nouvelle réforme des études met fin à la séparation historique des 2 filières professionnelles. Les infirmiers en soins généraux et les infirmiers de secteur psychiatrique. Les longs débats qui ont conduit à ce programme confirment l'approche globale de l'homme en ne dissociant plus le mental du physique, le psychosocial du biophysique et considèrent enfin la personne soignée comme un être qui ne peut plus être réduite à sa seule maladie. Les problèmes de santé ne sont pas uniquement médicaux, ils sont aussi culturels. Depuis 2008, le projet de l'Institut de Sainte-Marguerite ancre ses valeurs dans le prendre soin, se référant au concept d'humanitude. Ce néologisme, connu surtout grâce au philosophe Albert Jacquard, a été repris et, si l'on peut dire, popularisé dans le domaine des soins par Rosette Marescotti et Yves Gineste, qui ont développé une philosophie de soins de l'humanitude basée sur les concepts de bientraitance. Pour ces auteurs, l'humanitude est l'ensemble des particularités qui permettent à l'homme de se reconnaître dans son espèce, l'humanité, et de reconnaître un autre homme comme faisant partie de l'humanité. Chaque homme peut reconnaître les autres hommes comme des semblables. Chaque être humain est unique dans ses dimensions biologiques, psychologiques, sociales ou culturelles, et à la fois il est mon semblable. Et quand nous disons que nous sommes des êtres humains qui soignons d'autres êtres humains, nous sommes bien dans l'humanitude. Nous voulons toujours des infirmiers, des infirmières bienveillantes et compatissantes. Nous attendons aussi, comme hier, des infirmiers, des infirmières compétentes, performantes. Et si les savoirs scientifiques et techniques sont aujourd'hui valorisés, ils restent développés dans une perspective humaniste qui incite et participe à la progression d'une personne malade vers l'équilibre psychologique, vers la conservation de ses capacités humaines, vers un plus grand bien-être, et même, lorsque cela est possible, vers un retour à la santé.
Merci, merci, madame Tomasini.
يا سقيم الكاسنا بامي مهجور يا سقيم الكاسنا بامي مهجور اللي معنا في بجنا
Oh, c'est arrivé tout bêtement.
Un peu plus tard, ça a été la main gauche.
Mon fils te visait avec moi.
Perte de sensibilité aussi.
J'arrivais de faire des courses.
Et encore un peu plus tard.
Dans le magasin, je me suis trouvée un peu fatiguée.
Une chute avec une fracture à la jambe gauche.
Je me suis couchée.
À la suite de quoi
D'un coup, cette nuit-là, j'ai été paralysée.
J'ai retrouvé le même problème, la jambe gauche que la jambe droite.
Mais je dis, je ne sais pas, j'ai pas mal, je ne sens pas ni mes bras, ni mes mains, ni mes jambes. Je ne sais pas ce que j'ai.
En fait, je ne sais pas, j'ai dit à mon mari peut-être que je me suis mise à pleurer, pas pour la maladie qu'elle annonçait, mais elle était tellement gentille, et moi je suis quelqu'un de sensible. Elle m'a dit, maintenant je ne vais pas vous laisser tomber, mais je vais vous mettre en main de professeur au sixième étage. Nous, on est ici au neuvième de la Timone, donc je ne me débarrasse pas de vous, mais je vous donne en main d'autres professeurs. Alors, je sais pas, ça m'a fait de la peine d'entendre « Je ne vous abandonne pas, ne croyez pas que je vous abandonne ». Mon mari m'a dit « Mais tu es bête de pleurer pour ça ». J'ai dit « Oui, mais ma foi, ça m'a... » Sa gentillesse m'a touchée beaucoup.
C'est parce que je pense qu'on demande aux médecins de prendre en charge beaucoup plus de choses, qu'il y a plus d'exigences de la part du malade. Bon... La neurologie, c'est quand même très spécifique. Hein. Je ne suis pas sûr qu'une autre consultation... je ne pense pas qu'il y ait des neurologues qui mettent plus de 3 malades par heure. Et la plupart du temps, c'est plutôt une demi-heure.
J'ai été le voir quand il m'a vu, évidemment, que... Oui, c'est maintenant que vous venez... Il est sec. C'est un docteur malin.
Et des premières consultations, c'est souvent 45 minutes, hein, une consultation en neurologie, surtout avec des malades qui ont des troubles cérébraux, avec une certaine lenteur. Je suis pas sûr que la même chose s'applique à la gastroentérologie ou à la dermatologie. On n'a pas non plus les pratiques diffèrent d'une maladie à l'autre. Ces maladies très chroniques, avec une progression du handicap, de la dépendance, ça demande du temps. En fait, je veux dire, si on donne pas ce temps-là, on n'est pas bon. Quoi. On fait pas ce qu'on doit faire. On est à côté de la plaque, quand même, je pense.
je pense que ce témoignage audio qui était réalisé par l'association Tiresias, qui a mis en place un projet de collecte et de mise en circulation de la parole et des patients et des soignants au sein du service de neurologie et pathologie du mouvement du professeur Jean-Philippe Azulay à l'hôpital de la Timone, s'intégrait parfaitement dans la thématique de cet après-midi, qui est consacrée à l'élargissement thérapeutique et à l'intervention artistique. Je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis Michel Kasbarian, retraité d'utilité publique, représentant ici le président de l'Université de la Méditerranée. Alors j'ai une grande chance, c'est que, comme ce matin d'ailleurs, les orateurs de cet après-midi sont tous des personnalités exceptionnelles. Et puis comme modérateur, on a choisi un ami de longue date qui est monsieur le professeur Laraba. Monsieur Laraba est professeur chef de service de pédiatrie au CHU Babel-Oued depuis 1989. Il est chef de département chargé de la recherche à la faculté de médecine d'Alger. Et il sera le modérateur de la séance de cet après-midi. Je donne tout de suite la parole à monsieur Laraba.
Merci pour ces bonnes paroles. Je suis chargé de modérer donc les interventions de cet après-midi qui continuent ce qui s'est passé ce matin. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ces rapports entre la médecine qui est, à mon avis, une science humaine, pas tout à fait exacte, mais c'est une science humaine, et ses rapports avec le reste des autres sciences humaines. Je pense qu'on aura l'occasion également de parler d'un certain nombre d'activités qui sont en train de transformer le visage de l'hôpital et la vision que nous avons de cet hôpital, qui doivent en faire un lieu de vie. On va parler de l'introduction de l'art au niveau de l'hôpital et de tout l'intérêt qu'il y a et de son importance dans ces tentatives d'humanisation. Je pense que ces rapports du soin avec l'anthropologie sont très importants. Moi, je dirais plutôt qu'il nous faut privilégier une démarche anthropologique du soin, parce que c'est cette démarche qui permet de donner toute la signification aux informations contenues dans le rapport et les échanges qui vont se faire, d'une part, entre le soigné et le soignant. Voilà, je pense qu'on va continuer. Je voudrais donc tout de suite commencer par la première communication. Et je vais tout de suite présenter ce travail qui est celui d'une expérience qui a commencé il y a une dizaine d'années, celui de l'élargissement de l'environnement thérapeutique, qui ne s'inscrit que dans une tentative, justement, d'essayer de faire évoluer les pratiques au niveau de l'hôpital. Et quand je dis ça, je voudrais vous faire sentir toute la difficulté qu'il y a à essayer de faire changer et évoluer des comportements. Des comportements qui ont été longuement forgés par un discours, le discours médical ou le discours paramédical, qui, je vais être un peu provocateur, peut-être un peu intégriste. Et alors, cet élargissement, je vais vous présenter donc un film qui est celui des activités dans un service de pédiatrie à Babel-Oued et qui va commencer par vous présenter une chorale qu'on a mise en place avec les enfants malades, ensuite avec les mamans de ces enfants malades, avec des parents, avec des amis.
J'aimerais à mon tour vous parler des dispositifs de groupe que nous avons mis en place dans le service de pédiatrie. Le premier est un groupe de parole, puis un groupe à médiation pour les mamans gardes malades qui se trouvent au niveau du service et qui sont hospitalisées systématiquement avec les enfants et les nourrissons. C'est un groupe qui a démarré il y a 4 ans de cela et qui pour l'instant a été suspendu pour être repensé autrement. Le deuxième groupe, c'est un groupe d'analyse de la pratique pour les enseignants qui travaillent au milieu hospitalier. C'est un groupe qui a démarré 3 ans, on est à notre troisième année, avec 17 enseignants. C'est un groupe qui a été mis en place à la demande des enseignants, afin qu'ils puissent parler de leurs angoisses, mais aussi comment être enseignant autrement. Comment aussi, de sa part d'enseignant, accompagner un enfant en fin de vie. Enfin, toutes ces problématiques, toute cette identification professionnelle qui devait être discutée et échangée au sein de ce groupe-ci.
Il a fallu également persuader les soignants de libérer des espaces et du temps pour permettre à ces activités de s'implanter dans le service. Il y a également le problème des éducatrices venues du ministère de la Jeunesse et des Sports, dont le statut, mais également la formation, ne sont pas adaptés aux réalités de l'hôpital. Et c'est là probablement que le défi qu'il nous faudra probablement relever pour les années à venir.
Je vais passer maintenant la parole à M. Ruffo, éminent psychiatre, et qui va poursuivre, donc, j'imagine, et nous parler de l'expérience, son expérience, des soins culturels auprès d'adolescents en difficulté psychique.
Mon propos est possible aujourd'hui à cause des immenses progrès de la pédiatrie et de la médecine. On peut donc s'intéresser à l'enfant dans son devenir, comme vous le montrez très bien dans votre film, la scolarité, les autres, l'avenir, à partir du moment où il survit. On ne pouvait pas envisager des soins culturels ou un autour de la maladie tant que la maladie était dominatrice et tuait les enfants hospitalisés. Et je crois que le futur enjeu c'est de s'intéresser à la maladie, certes, à continuer une excellence de soins, mais surtout se poser la question de l'avenir lorsque quelqu'un est malade. J'accompagne ta guérison, c'est en fait, tu te réappropries le courant de ta vie, bien qu'ayant été malade. Donc ces notions très importantes dans la représentation de la maladie, qu'est-ce qu'une maladie du côté du patient par rapport aux connaissances scientifiques et techniques du médecin? René Diatkin, lui, disait quelque chose de plus provocateur à son habitude. Il disait, tant qu'on n'a pas renoncé à l'ambition de guérir, on risque toujours d'en vouloir à ce qui ne se laisse pas soigner. Et voilà quelque chose qui est sidérant lorsqu'on est médecin et qu'on entend une phrase aussi étonnante. On s'est vraiment posé la question de comment transformer l'hôpital et surtout la question plus générique, qu'est-ce que l'hôpital ? Quel est l'hôpital idéal ? Et on terminera par une utopique, qu'est-ce qu'un hôpital idéal ? Alors que la réponse est simple. L'hôpital idéal, c'est celui où tu pourras hospitaliser ton fils ou ta fille. Et c'est quelque chose d'extrêmement banal sur le plan de l'empathie naturelle, de la proposition qu'on doit faire. Alors, est-ce que, comme Yvonne Lundquist, il faut créer un corps spécial de ludothérapeutes, de gens qui jouent avec les enfants à l'hôpital et qui sont en collaboration avec les enseignants? Le problème, c'est que on n'est pas hospitalisé toujours de la même façon. On ne peut pas non plus ne pas comprendre que l'enfant entre de 3 à 4 ans a 4 minutes d'attention. On ne peut pas non plus ne pas savoir que l'enfant ne joue en groupe qu'à 4 ans. Au-delà, il joue seul. Donc les ateliers de jeux, etc., pour les petits bébés, servent strictement à rien. Après, la notion la plus importante, c'est que l'enfant malade est parfois un trop bon malade. Il joue à être malade. Il crée des liens familiaux étranges avec les soignants en hôpital. Entre 6 et 12 ans, l'enfant est intéressé partout. Et c'est le moment idéal pour l'école. Je ne peux pas comprendre, et vous l'avez dans votre service, mais je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas l'école à l'hôpital. On peut de toute façon maintenant, à l'ère du net, avoir son école dans son hôpital. Je ne perds pas le lien avec le reste de ma vie. L'adulte, c'est nous, ça vérifie les médecins, ça a le choix. Et la personne âgée, on en reparlera bientôt, la personne âgée demande un hôpital spécifique. Venons-en quand même à ce qui est mon sujet, j'y arrive, ne vous inquiétez pas, l'adolescent. L'adolescent est certainement celui qui est le plus difficile à soigner. Et donc, il faut vraiment que l'on soit dans un travail spécifique dans les services de pédiatrie, dans les services de médecine, dans les services de psychiatrie, qui est des unités spécifiques d'adolescents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous pareils, tous uniques. Déjà, ça demande des singularités. Alors, comment faut-il faire ? Donc, il faut déjà que le psychiatre ait bon caractère. Il faut donc des outils culturels, des soins culturels associés aux soins médicaux. Donc déjà, un changement des patients, un changement des familles qui nous impose une alliance. Et l'alliance, c'est quoi ? Votre fille est hospitalisée, elle ne redoublera pas. Elle continuera sa scolarité. Votre fille fait de la guitare, qu'elle amène sa guitare. Votre fille a son ordinateur, qu'elle vienne pour envoyer des MSN régulièrement avec les gamines, ses copains, ses copines et son amoureux. Le week-end, elle sort à la maison. Vous venez à un groupe de parole. Vous faites de la musique. La musique est un médicament générique du bien-être. C'est un médicament générique pour aller mieux et être compliant, par exemple, avec une psychothérapie ou un groupe de parole. La cuisine est aussi un soin culturel. Et je crois que cet ensemble de choses est décisif pour l'avenir. Si les meilleurs amis viennent spontanément à l'hôpital, participer à un groupe de parole, on aura réussi un hôpital utopique, mais vous savez bien que l'utopie, c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui n'est pas encore réalisé. Je vous remercie de votre attention.
Alors, nous allons continuer, si vous voulez bien, et nous sommes toujours dans la culture. Donc, nous allons essayer d'écouter donc aujourd'hui le témoignage de M. Christophe Alep, qui va nous parler espace corporel, expérience du sensible, résidence chorégraphique à l'espace d'art contemporain.
Bonjour à tous, donc, je suis Christophe Alep, chorégraphe, enseignant, danseur, je dirige aussi une compagnie. Et donc, j'ai eu une invitation en 2005, qui m'a été faite par la directrice du 3BIS-F, qui est un lieu d'art contemporain dans un hôpital psychiatrique à Aix-en-Provence. Donc il a fallu s'habituer à cet espace-là. Et à la question du travail individuel, tout à l'heure vous parliez là, de l'enfant qui, à un moment donné, joue seul et peut aussi jouer collectivement. Et très vite, c'est ça qui est apparu. La question de l'articulation entre l'individu et le collectif, tout ça faisait un contexte qui nous a mis au travail sur l'idée d'un format in situ. Je vais essayer de vous parler de l'expérience qu'on a menée, donc d'un format in situ qui prendrait en considération l'espace réel et quotidien de ce qu'on appelle un hôpital psychiatrique. Donc on a eu un processus de travail assez long sur des ateliers autour de du sujet de l'habitat nomade, donc du corps, évidemment, de la présence, et aussi la dimension peut-être du rêve, de la question du symbolique, la question aussi de cette réalité-là qui est celle donc, d'une compagnie de danse dans un lieu psychiatrique. La spécificité du 3BIS-F, qui est un lieu d'art contemporain, c'est que c'est un lieu très poreux sur l'hôpital, donc il y a des patients, des gens de la ville, des gens des villes, même, alentour, qui viennent pratiquer des expériences artistiques, des ateliers, des workshops, voire aussi des spectacles, et du personnel soignant. À chaque fois qu'on ouvrait une session de travail, on ne demandait pas aux gens de venir avec une étiquette. Les gens venaient, on ouvrait les portes, il y avait des rendez-vous prévus. Au bout d'un an, ça a pris la forme d'une régularité, comme ça, d'ateliers, d'expérimentation, autour de cette chose du nomadisme dans le corps. Et donc c'était des notions de, ça impliquait des notions de proximité, des notions de participation et d'amener les gens à se poser des questions ouvertes avec des pratiques physiques. On a mis en place un dispositif aussi d'enregistrement de textes sur la question de l'habitat, comment les gens perçoivent leur corps, l'habitent. Peut-être à partir de cette question de l'habitat, le deuxième projet qui a été exploré au 3BIS-F, donc Domestic Flight, a posé la question de l'identité et notamment de la représentation de l'homme dans l'espace domestique. Donc la question du genre, masculin, féminin, l'attribution du genre à l'espace architectural. Et peut-être que la question de l'espace psychiatrique, c'est aussi une question du seuil de perception.
L'espace est à peu près divisé en quatre.
Une question aussi de délicate comme ça, d'amener les gens à franchir, d'autant plus actuellement avec toute cette politique sécuritaire et cette inquiétude, donc de rendre l'espace, comme je disais tout à l'heure, pour eux et de permettre aux gens d'entrer et de sortir, de rentrer et de sortir.
Thank you.
Merci beaucoup. Donc, nous poursuivons ce tour d'horizon. Nous arrivons maintenant à M. Raoul Marek, qui est un artiste suisse, qui vit et travaille à Paris et Berlin et qui réalise installations, photographies, expositions, ainsi que des projets de réseau et d'accueil qui mettent en relation des gens et des endroits à l'aide de moyens artistiques. Il est considéré comme un précurseur et représentant important de l'art relationnel. Je vous passe la parole.
Moi, j'aimerais bien un peu voyager entre les deux positions, entre observateur, mais aussi comme patient potentiel. D'abord, j'ai remarqué, moi, j'aime pas être allé à l'hôpital. Première chose. Ça, c'est une chose, si je vais à l'hôpital, je me trouve déjà malade. Mais pour moi, personnellement, comme patient ou comme visiteur, j'ai peur. J'ai une angoisse, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il passe. Je sais qu'il y a des gens très compétents, il y a toutes les techniques très compétentes. Ça, c'est que ce que je peux espérer, parce que je suis incompétent au niveau des soins. Et tout ça parle déjà d'une idée d'une société. Et là, ça, c'est un prétexte, c'est l'idée d'un corps idéal. J'ai pris une boule. C'est un travail dans un hôpital de Sierre qu'on me demandait un projet. Et je travaille dans la forme idéale du corps. C'est, à la limite, la boule qui est fractalisée. Ça veut dire, et comme j'ai senti aussi moi, dans l'hôpital, je me souviens comme une automobile. Je suis venu, et après j'ai vu un médecin, j'ai vu 10 minutes. Après, je demandais tout d'un coup, oui, mais il y a quelqu'un qui m'observe. Oui, ça se fait par ordinateur. C'est qui va gérer ça. Et là, j'étais perdu. Et j'ai senti tout d'un coup cette idée de fractalisation du corps. Je trouve aussi dans l'hôpital, il faut avoir cette idée, comme vous avez dit avant, l'idée aussi du jeu, l'idée de la vie. Et ça, c'est l'idée du jeu aussi. Les choses qui sont, comment on dit ça, qui ne sont pas désinfectées. Et après, j'ai réfléchi sur la question, qu'est-ce que ça veut dire l'hôpital pour moi? Et quelles sont les choses que je peux repérer, et c'est des symboles. J'ai remarqué, c'est des symboles. Si je rentre dans l'hôpital, c'est déjà l'entrée. J'étais à Annemasse invité pour un projet dans l'hôpital intercommunal à Annemasse pour faire un projet. On m'a demandé, et j'étais invité comme artiste. Et ça, c'est le problème. Si on invite comme artiste, on pense qu'on va faire une exposition dans l'entrée ou on va faire une exposition dans des couloirs. Mais ce n'est pas ça que je vois. L'idée de l'art, moi je trouve l'art, il faut qu'on se mêle dans les structures et aussi on se mêle dans les questions, des questions qui donnent à discuter si on est ouvert à entrer dans les discussions comme ça. Et après j'ai dit oui, j'aimerais bien faire ça, mais j'aimerais bien participer à toutes les réunions des médecins, des infirmières, des techniciens pour comprendre le système et pour comprendre une structure. Et c'était très intéressant parce que tout d'un coup j'ai remarqué quelle énergie et quelle volonté d'aider est là. Et en même temps, j'ai remarqué, moi, je suis perdu parce que je ne comprends rien. Je suis là, si je suis malade, j'espère qu'ils vont bien faire. Dans toutes ces discussions-là, je suis aussi entré dans la chambre mortuaire et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé, ils donnent la dernière chose, ils ont donné, il m'a dit, on donne ça dans un sac plastique. Et souvent, c'est ressenti comme un sac de poubelle. Culturellement, ça me choquait. J'ai dit, ça, c'est notre idée de l'être humain. C'est aussi ça. Qu'est-ce que ça veut dire si nous donnons les dernières choses à un monsieur qui était une femme, que j'ai aimé, était cher, et je reçois les dernières choses dans un sac de plastique où je vais à la maison avec ça. Et ça, c'est l'idée de l'âme. L'âme, ce n'est pas l'idée du savoir. L'âme, c'est des sentiments. Et j'ai fait une proposition de cet acte. Je vous fais un kaba, ça s'appelle la kabalune. Le kabalune, ça veut dire, ça c'est un sac en papier bien fait qui montre la vie comme un cercle naturel. Ça veut dire, il y a un symbole, et je trouve aussi dans toute la question hôpital, politique, c'est les symboles qui comptent pour les gens simples. Et j'ai maintenant 7 hôpitaux en Allemagne qui font ce projet. Pour ça, je dis, l'hôpital, à la limite, c'est vraiment un lieu de vie, parce qu'il parle de la vie comme la naissance, comme de la mort. C'est très important. Et ça, c'est pour moi, ça signifie aussi la culture d'un hôpital. Et aussi, la chose importante, c'est chaque culture et chaque région, il y a sa propre rite. Je vous remercie. Thank you.
Nous continuons, nous finissons. Je voudrais passer la parole maintenant à M. Roland Tombe, qui est là pour faire un peu le résumé de la journée. M. Tombe, donc, est professeur à la faculté de médecine à Beyrouth.
Mon directeur de thèse en bioéthique est ici présent, donc je le salue, puisque je commence par mon résumé, par ce qu'il a dit ce matin. Pierre Lecauz, pour ne pas le nommer, avait commencé par énumérer les différentes significations du mot « culture ». Le sens anthropologique, culture, ce sont les pratiques culturelles. Celui qui recouvre les humanités, le monde des livres, des arts, de la littérature, la philosophie. Et enfin, le sens le plus abstrait, la culture, c'est ce qui s'oppose à la nature. Pour Lecauz, l'hôpital est bien le lieu privilégié où cette culture de l'hospitalité va estomper les différences, corriger les inégalités entre celui qui est malade et celui qui est en bonne santé. L'humanisme, ainsi, n'est pas l'amour de l'homme parfait, c'est le pari de la grandeur de l'homme, même en face de la misère humaine. D'humanisme, il a été question dans toutes les interventions. J'ai entendu humanité, humanisation et même humanitude. Par moments, j'ai même perçu que l'agent médical et paramédical se sentait sur la défensive, protestant de son humanité, de son humanisation ou de la réhumanisation de sa pratique. Pour en revenir à la culture, Antonio Guerci de Gênes a rappelé comment chaque culture a sa propre représentation de la santé, tant synchroniquement que diachroniquement. Pour lui, la culture est pathoplastique, c'est-à-dire qu'elle met en forme la maladie. Rafi Khalil d'Alexandrie et Hamza Saddam de Tunis ont brossé tous les deux des fresques historiques. Tous les deux nous ont rappelé le rôle de l'école de Salerne, dont nous avons repris l'intitulé, et j'espère aussi l'esprit. Isabelle von Bülsing-Sloven nous a ramené à une époque beaucoup plus proche de nous en ressuscitant des auteurs un peu oubliés comme Maxence van der Merch et Marcel Carton. Pour en revenir à l'holisme médical qu'a remarquablement analysé Isabelle, je pense qu'il n'est pas si démodé que ça. C'est ainsi qu'ils ont posé les fondements pratiques des principes que la bioéthique va consacrer plus tard. Sur l'humanisation sont revenus Bernard Beleghe et Frédéric Tomasini. Beleghe a donné une définition que je trouve admirable. Humaniser, c'est rendre supportable à l'homme. Le terme d'humanisation, nous a-t-il dit, est un néologisme qui est devenu un slogan. Frédéric Tomasini a rappelé l'évolution du métier d'infirmière et la révolution de l'enseignement qui était autrefois centrée sur la maladie depuis les directives de 61 et enfin centrée sur le malade, sur la personne, depuis 112-73, rejoignant par là la démarche holistique détaillée par Isabelle. Les interventions de l'après-midi étaient davantage centrées sur la pratique. Abdelnour Laraba nous a rapporté une remarquable expérience menée à Bab El Oued malgré toutes les contraintes. Marcel Ruffo a rappelé les difficultés de soigner l'adolescent et l'enthousiasme qu'il met à réaliser, c'est-à-dire à rendre réelles les utopies. Christophe Aleb réinvestit les lieux publics et privés en transgressant les frontières entre la danse, la musique, les arts plastiques. À l'utopie de Ruffo répond le nomadisme de Christophe Aleb. De son côté, Raoul Marek fait une proposition artistique pratique qui intègre devant la mort la symbolique des cycles de la vie. La culture, c'est aussi la force des symboles. Santé, culture, humanité, nous avons beaucoup entendu ces termes. Nous avons parlé de dualité, nature-culture, corps-esprit, et même d'opposition entre le corps organique et le corps subjectif. La culture a pour difficile défi de faire exister ce corps vécu, senti, en dehors du corps organique. La culture est donc au service de l'humanisme parce qu'elle permet l'échange des idées, les débats contradictoires, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et comme l'a dit Lecauz, nous ne nous humanisons pas tout seuls, c'est la culture qui nous humanise. Voilà, nous n'avons pas épuisé toutes ces conversations de Salerne, nous n'en sommes qu'à la première édition. Je suis bien placé pour vous donner rendez-vous pour la prochaine édition qui, j'espère, aura lieu à Beyrouth, les 26 et 27 novembre 2010. Elle aura pour thème « Salut et santé, religion et spiritualité à l'hôpital en Méditerranée ».
and we smile.
À l'initiative de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, les Conversations de Salerne, rencontre euro-méditerranéenne des questions de santé et de culture, vous proposez ce premier débat sur le thème « L'humain à part entière, humanisation et médicalisation en Méditerranée ». Il était enregistré le 29 mai 2010 à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Les extraits musicaux étaient issus du concert donné par Fouad Didi et l'ensemble Tarab. Réalisation Xavier Thomas, Radio Grenouille.
Well,